légendaire et réservée d'Andy Pop de la scène française. Notre apothicaire de l'âme cultive un réjouissant exil, en miroir peut-être à celui subi pendant l'enfance lorsqu'il quitte Oran après la guerre d'Algérie. Rennes, Paris, Londres sont quelques-unes des villes qui ont embrassé cet être curieux et obsessionnel, paraît-il, dans leur atmosphère. Il accomplit depuis des décennies la noble finalité de la pop, dire des choses complexes avec une apparente simplicité. Malgré son élégante pudeur anglo-saxonne, il arrive que notre apothicaire se livre vaporeusement dans ses chansons qui évoquent les deux composantes immuables de l'existence, l'amour et l'absence d'amour. Bonjour Étienne Dao.
Bonjour.
Première question, quel rapport entretenez-vous avec l'infectieuse mélancolie, comme vous la qualifiez dans votre chanson Les Torrents défendus ?
Un rapport un peu lointain finalement. Quand j'étais plus jeune, adolescent, j'avais une espèce de compulsion à la mélancolie, mais comme une chose très confortable en fait.
Une complaisance.
Oui, une espèce de chose confortable comme ça, qui fait du bien, qui fait presque plaisir. Et puis, c'est devenu une espèce d'ami qui s'est éloigné de moi, petit à petit.
Donc quand on ne la redoute pas, elle devient plus tolérable finalement.
Oui, elle disparaît même, je trouve.
Waouh.
Elle fait place à autre chose.
Vous êtes né à Oran.
Oui.
Vous avez connu la guerre d'Algérie et vous dites souvent en interview que la présence de la mort enfant vous a toujours poussé vers la pulsion de vie, vers la construction plutôt que la destruction.
Oui, je réponds souvent ça parce qu'en fait, quand on me pose la question de ce moment de mon existence, qui est quand même assez court et qui marque malgré tout, il y a toujours un effet lacrymal. Enfin, on essaie toujours de me pousser dans un espèce de côté un peu larmoyant et tout, qui n'est pas du tout ce que je ressens. Chaque événement est quelque chose qui vous construit, qui fait que vous devenez quelqu'un d'autre. C'est là où vous puisez justement plein de choses. Et c'est pas du tout un épisode que je considère... Enfin, tous les épisodes qui pourraient être considérés comme tristes ou... Je les ressens comme étant...
Des richesses.
Des richesses, des choses dans lesquelles je puise inspiration et force.
Vous avez une règle, Étienne Dao, qui est de parler des choses graves avec légèreté. Le deuil, oui, mais sur un mode joyeux.
Oui, c'est vrai.
Bravo. Ça demande un effort de votre part ou vous pensez que ça vient de votre pudeur ou...
Probablement des deux.
Bon alors j'annonce le sommaire des réjouissances aux auditeurs. Dans quelques instants, vous allez convoquer le réalisateur John Waters, des cordes vocales, une rivière, une catastrophe, Jean Genet, le devenir, Paul Valéry et l'artiste britannique Dougie Fields, juste après un titre de votre prochain album Blitz, dont la sortie est prévue en novembre, Les Flocons de l'été.
Givré, innocent, tout figé, c'est l'hiver, en été. Tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré. C'est l'hiver, en été. La nuit blanche pourrait durer jusqu'à la fin de l'été. Allongé sur le sable givré, sous les flocons de l'été. La nuit pourrait durer toute l'éternité. Tout est blanc. Étouffé, faux semblant, allongé, c'est l'hiver, en été. été. La nuit blanche pourrait durer toute l'éternité. Loin, si loin, à soi-même exilé, sous les flocons de l'été, la nuit pourrait durer toute l'éternité. C'est l'hiver en été.
Les flocons de l'été à retrouver sur Blitz, votre prochain album qui sort en novembre. Vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'Étienne Dao et d'une meurtrière au brushing flamboyant.
Hello?
Is this the cocksucker residence?
God damn you, stop calling here!
Isn't this 4215 Pussy Way?
You bitch!
Now let me check the zip code. 212, fuck you!
The police are tracing this call this very minute.
Well, Dottie Hinkle, then why aren't they here, huh? Fuckface,
fuck you!
Vous connaissez l'extrait par cœur, 1994, Serial Mom, farce réjouissante, kitsch et gore du réalisateur américain John Waters. Alors vous avez choisi cette scène du coup de fil anonyme passé par la mère de famille interprétée par Kathleen Turner.
Qui est extraordinaire dedans.
Extraordinaire.
Fantastique.
Est-ce que vous pouvez remettre cette scène en contexte pour les gens
qui
n'auraient
pas
vu le film ?
Oui, en fait, on apprend un peu plus tard qu'en fait elle s'est fait choivé sa place de parking au supermarché. Donc chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui sort des clous, il lui arrive un peu malheur. Et donc là, elle la persécute avec des coups de fil obscènes. Mais c'est hyper drôle. Mais John Waters est vraiment mon réalisateur préféré. Et je connais plein de ses films, mais quasiment par cœur. Il y a vraiment des phrases qui sont vraiment des classiques.
C'est vrai qu'il y a une drôlerie, une liberté narrative. On le sent s'amuser pendant tout le film.
Mais il rit de tout. Il est brillantissime. C'est vraiment un être exceptionnel, vraiment.
Et il dit au début du film que c'est une histoire vraie. Évidemment, rien n'est crédible dans ce qu'on voit. Et c'est vrai que les causes des meurtres sont quelqu'un qui mâche un chewing-gum, quelqu'un qui ne rembobine pas une cassette.
Oui, quelqu'un qui ne recycle pas ses poubelles aussi.
C'est ça, parce que la meurtrière a des valeurs.
Oui.
Et que pensez-vous de la musique ? Parce que Waters, qui s'amuse vraiment de tout, met à la fois une bande originale de sitcom grotesque, délibérée.
Mais c'est toujours très important, la musique chez John Waters. La plupart de ses premiers films, c'était vraiment que de la surf musique, des choses un petit peu obscures, qui donnent aussi, avec tous les films qu'il a fait avec Divine, ce côté encore plus décalé, quoi. Vraiment des chansons vraiment sweet, enfin, des tubes pop des années 50 ou 60, avec des films assez trash. Et je trouve que cette espèce de choses dissonantes, ça marche très très bien. Et là, il a demandé à Basile Baleopoulos, je crois, qui s'appelle, de lui faire vraiment un vrai score pour ce film. Et voilà, ça marche très bien, quoi.
Il y a aussi de très bons titres, en plus de la BO kitsch, justement, choisie.
Oui, il y a L7 aussi. Il y a un titre qui s'appelle Gas Chamber. Et la scène qui se passe avec les L7 est vraiment tombée de rire.
Ouais. Je garde un souvenir délicieux puisque vous parlez des films musicaux de Waters, de Cry Baby.
Cry Baby, superbe.
Formidable.
Airspray.
À revoir. Il faut dire que dans Serial Mom, quand même, le père ressemble à BHL. Je trouvais ça important d'apporter cette information aux éditeurs. Et c'est vrai que John Waters revient souvent dans vos interviews, Étienne Dao. Il y a un propos que vous avez cité de lui dans une interview auquel vous adhérez. Il dit qu'il préfère être un insider pour mieux dicter ses propres règles et conserver sa liberté artistique. Qu'est-ce que c'est qu'un insider ?
C'est quelqu'un qui essaie de noyauter le système tout en restant dehors. Il utilise le système en étant dehors. Voilà.
Vous essayez ?
J'ai eu la chance qu'on m'offre une place dans le système et qu'on accepte ma volonté de faire vraiment ce qui me passe par la tête, quoi.
Tant que je pourrais chanter, c'est la seule chose qui compte. Le reste, ça m'est égal.
Mais vous dites tant que je pourrais chanter, vous savez bien que vous ne pourrez pas chanter éternellement.
Eh bien, le jour où je ne pourrais pas chanter, je mourrai sûrement.
Est-ce que, sincèrement, vous croyez que vous chantez aussi bien qu'il y a 15 ans ?
Ça, c'est seulement le public qui peut le dire, je ne sais pas. Je pense que je suis plus, plus sincère encore maintenant que je ne l'étais il y a 15 ans. C'est tout ce que je peux dire.
Interview d'Edith Piaf par Pierre Desgroupes. En septembre 1962, elle meurt environ un an après. Pour introduire l'activité qui vous grise, Étienne Dao, sans surprise, il s'agit de chanter. Le dessinateur Alfred et le scénariste David Chauvel vous ont consacré une bande dessinée en 2015 intitulée « L'homme qui chante ». Et j'ai lu que vous aviez en permanence une musique dans la tête. C'est une évidence rare, mais vous
Sauf maintenant, parce que je vous parle.
J'espère. Donc, quand, ou peut-être que ça swing, je ne sais pas.
Quand je suis dans une conversation, la radio intérieure s'arrête. Mais dès que je parle plus avec qui que ce soit, enfin, je veux dire, ça se met en branle tout de suite.
Jamais de silence.
Non, c'est fatigant.
Ouais, j'imagine. vous considérez la musique comme, je vous cite, un paravent au chaos de l'enfance et de l'adolescence. C'est toujours le cas ?
J'ai dit ça il y a longtemps, peut-être. Je sais pas. Non, la musique c'est vraiment une manière de m'exprimer, je respire en fait. C'est comme c'est l'oxygène. Je suis fabriqué pour faire des chansons et pour faire le métier que je fais. Et ça a été toujours. J'ai toujours su ça, même si je l'ai confirmé ou affirmé ou dit longtemps après. Mais ça a toujours été là et ça le sera toujours, je pense.
Dans Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, sorti en 1621, la musique fait partie des remèdes souverains contre la mélancolie. Pourquoi, à votre avis ? Est-ce que c'est parce que ça implique le corps, que ça berce les molécules, l'âme, si ça existe ?
Je ne sais pas, c'est une vibration très particulière. Tout le monde écoute de la musique. On n'a jamais autant consommé de musique que maintenant, d'ailleurs.
C'est
un vrai remède à la mélancolie. Véritable. C'est une... Je ne sais pas, c'est indéfinissable. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait...
Vous chantez
développer.
Tout le temps, tous les jours ?
Non, mais c'est vraiment, j'aime les moments où je suis sur scène parce que je suis tout le temps tiraillé entre le futur, le passé. Et j'ai rarement l'occasion d'être vraiment dans le présent. Et le présent, c'est vraiment, c'est un combat pour essayer de rester dans ce présent et de le goûter et de le vivre à fond. Et quand je chante, je suis réellement dans le présent. Il y a rien qui compte à part ce moment, parce qu'on convoque beaucoup de choses de soi-même et on est vraiment là, quoi.
Il y a une chose frappante à votre sujet, Étienne Dao, c'est la générosité dont vous faites preuve en ce qui concerne les autres artistes musicaux.
Oh.
Ouais, vraiment, c'est assez rare d'en découvrir autant grâce à un artiste. Vous les découvrez en flânant chez des disquaires, en allant à des concerts, vous les invitez à collaborer, vous les mettez en valeur, vous parlez d'eux avec enthousiasme.
Je suis reconnaissant, en fait.
Ouais.
Quand j'écoute la musique de quelqu'un qui me transporte, ce qui me fait du bien, qui me provoque une émotion, vraiment, je suis reconnaissant. Et quand il y a un album dont je tombe amoureux, vraiment, donc je le dis. Donc, je cite toujours mes sources. Je trouve que c'est important de renvoyer des fleurs aux gens qui vous ont fait vibrer.
Mais c'est noble et c'est assez rare.
Je ne sais pas si c'est noble ou rare, mais en tout cas, voilà, enfin, c'est comme ça, quoi.
Vous adorez Pérez, qu'on avait reçu, Flavien Berger. Vous avez dit, par exemple, du premier album du trio Unloved, Guilty of Love, je le cite parce que je ne le connais pas, qu'il vous avait retourné le cerveau.
Ah oui.
Et vous nous avez confié deux titres qui ne sont pas omniprésents dans les médias. Le premier, c'est celui-ci.
Du haut de la montagne, le cours d'eau est un fil d'Ariane. Il les arde les champs et emporte les armes en avant. Quand approche les lumières de la ville, il sait se tenir tranquille pour mieux t'emmener. Thank you. je laverai tes soucis à l'envi. Si tu pleures dans mon corps, tu nourris mon effort, bois mon courant. Quand t'approches les lumières de la vie, je sais.
La rivière de haut comme la lettre derrière laquelle se cachent Olivier et Marguerite. Ouais. C'est sur l'album Un torrent la boue sorti en 2016. Alors c'est un titre assez méconnu mais qui était également le choix de Philippe Catherine pour l'émission.
Ah vraiment?
Oui.
Ah oui, j'ai découvert sur France Inter cette chanson. Il était invité un matin dans une émission et vraiment je suis tombé amoureux de cette chanson. Donc je l'ai achetée immédiatement et après j'ai découvert l'album. C'est vraiment c'est une très belle compo quoi. Il y a vraiment quelque chose de rare dedans. Il y a vraiment beaucoup de pureté, je sais pas comment l'expliquer, c'est il y a l'évidence, c'est très bien composé bien sûr, mais il y a cette petite dimension supplémentaire qui ça fait du bien quoi. C'est une chanson qui fait du bien.
Et quand on analyse musicalement tout ce qu'on entend, on peut encore quand même avoir des engouements vraiment des passions comme ça pour des morceaux.
Oui, après je décortique des fois sur certaines écoutes, je n'entends que la basse, d'autres écoutes, j'écoute que la batterie. C'est un peu une déformation professionnelle, mais globalement, je prends un plaisir global.
L'autre chanson qui vous tire du spleen, Étienne Daho, c'est un titre de la formation Catastrophe qui se définit comme un mouvement engagé à Paris en 2015 par une quinzaine d'humains de moins de 30 ans. Alors je dis un petit mot sur eux avant de vous entendre parler du morceau, parce qu'ils s'illustrent dans plusieurs disciplines. Ils ont été remarqués par une tribune dans Libération intitulée...
Oui, il y a eu une espèce de conflit par rapport à ça.
Ouais.
Et ils ont fait une réponse qui était assez touchante en fait, parce que c'est toujours très difficile de se faire attaquer comme ça. Je pense que voilà, c'est des vingtenaires qui ont envie de s'amuser, de faire plein de choses, et c'est un collectif en fait. Donc ça méritait pas cette attaque aussi virulente en fait. Vraiment, on a le droit de se marrer quoi.
C'est vrai, on peut toujours la lire, ça s'appelle « Puisque tout est fini, alors tout est permis ». Ils viennent de sortir un livre chez Pauvert, « La nuit est encore jeune », et il y a parmi eux les doués Pierre Jouan et Blandine Rinkel, qui est l'auteur du remarqué roman « L'abandon des prétentions », et ils sont produits par Bertrand Burgala sur le label Tricatel. Vous avez choisi un morceau particulier.
Oui, « Party in my pussy ».
Voilà.
C'est Bertrand qui m'a envoyé le clip, qui déjà en lui-même est vraiment génial. Et puis le titre est sublime, vraiment, au-delà du fait qu'il y a le texte est désopilant, c'est très bien composé, c'est très bien. Moi, ça me fait penser un peu aux Beach Boys aussi par moment. Il y a ce petit passage qui me fait penser à un titre d'un album des Beach Boys qui est ressorti, qui s'appelle Smile. Et vraiment, le titre est vraiment génial, quoi. Vraiment, ça fait partie de mon top 10 là.
Et un petit mot sur le clip avant qu'on écoute la chanson.
Le clip est très drôle.
C'est comme, il y a une sorte de dieu grec au début.
Oui, voilà, c'est ça. Ils sont tous peints en blanc, comme ça. Il y a un côté un peu... Ils incarnent un peu des héros de la mythologie. Avec des lentilles de couleur dans les yeux. Et c'est un plan de travelling qui s'éloigne. Et voilà. Il y a de l'humour et en même temps du savoir-faire. Ce titre, il est vraiment génial.
Au milieu des années 80, les Red Hot Chili Peppers sortent Party on Your Pussy, qui se nomme finalement Special Secret Song Inside, par censure. Il se passe des choses dans l'underground des corps. Catastrophe, Party in My Pussy sur l'album Dernier Soleil, Vision XL.
There's a party in my pussy. Something great is going on. There's a party in my pussy. Everybody, come on. There's a party in my pussy. Something great is coming on. There's a party in my pussy. Everybody, come on. My pussy.
a body in my pussy. Something green is coming up.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie d'Étienne Dao et de la voix de Jean Genet au micro de Bertrand Poirot-Delpech.
Puisque tous mes livres ont été écrits en prison, je les ai écrits pour sortir de prison. Sorti de prison, l'écriture n'avait plus de raison d'être.
C'est en lisant des interviews de David Bowie que vous vous intéressez à Jean Genet, Étienne Dao, un intérêt que vous partagez avec John Waters, qui affirme que Genet lui a sauvé la vie et l'a influencé sur la conception de la beauté dans le crime. Vous avez enregistré avec Jeanne Moreau en 2010 Le condamné à mort, qu'il écrivit à la centrale de Fresnes en 1942, et vous avez choisi comme baume littéraire ce matin le long poème d'amour que lui inspira le jeune acrobate Abdallah Bentaga, rencontré en 1955. Le texte, c'est Le funambule, le texte paraît en 1958, et je vous passe le relais pour nous en parler.
Alors, il faut dire aussi que ce texte, c'est comme un manuel, en fait. C'est comme un...
Comme un lettre à un jeune poète.
Le mode d'emploi, c'est exactement ça. D'abord, je voulais choisir lettre à un jeune poète, et je me suis dit, tout le monde doit choisir lettre à un jeune poète. Et le pendant de lettre à un jeune poète, c'est le funambule, qui est un vrai manuel pour l'artiste, en fait. Et on y trouve tout, enfin, tout ce qui concerne le parcours de l'artiste, à savoir le dévouement à son art, le travail, l'isolement, l'exposition, le public, la cruauté du public, l'argent, enfin le dénuement dans sa vie privée, enfin la sobriété dans la vie privée pour tout donner au moment où on apparaît. C'est assez magnifique et j'avais un petit extrait à lire. Et j'ai aussi un truc à te dire, qui c'est, enfin je sors un petit peu du texte, mais je recherchais en fait le texte du funambule, j'ai voulu le racheter, en fait on m'a dit mais... Il fait partie du condamné à mort que j'ai enregistré avec Jeanne. Et en fait, j'ai retrouvé l'exemplaire de Jeanne qui est annoté de toutes nos interventions parce qu'on a enregistré le funambule. C'est resté inédit parce qu'à l'époque, on se disait, quand on va monter sur scène, le condamné à mort, c'est trop court. Et donc, on va faire un complément avec le funambule. Et j'ai retrouvé comme un signe qu'elle m'a envoyé, j'ai retrouvé cet exemplaire. Je vous assure, vraiment, ça m'a retourné de le voir. Elle avait mis des petites feuilles en marque-page, comme ça. C'est,
C'est très émouvant.
Et donc, le texte. Tu ne saurais être malheureux par la maladie, par la faim, par la prison. Sois-le par ton art. Que nous importe un bon acrobate, tu seras cette merveille embrasée. Toi qui brûles, qui dure quelques minutes, tu brûles. Sur ton fil, tu es la foudre. Ou si tu veux encore, un danseur solitaire. Allumé par je ne sais quoi, qui t'éclaire, te consume, c'est une misère terrible qui te fait danser. Le public, il n'y voit que du feu, et croyant que tu joues, ignorant que tu es l'incendiaire, il applaudit l'incendie. C'est beau, non? Et puis il conclut par « Ce sont de vains, de maladroits conseils que je t'adresse. Personne ne saurait les suivre. Mais je ne voulais pas autre chose qu'écrire à propos de cet art un poème dont la chaleur montra à tes joues. Il s'agissait de t'enflammer, non de t'enseigner. » Voilà.
C'est magnifique et c'est vrai qu'on retrouve cette idée de faire tous ces efforts pour un moment de grâce si fugitif, la solitude mortelle de l'artiste, ce paradoxe entre en fait le moment où l'artiste est le plus flamboyant, c'est en fait une petite mort. Et il y a cette phrase dans le texte, on n'est pas artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé. Ah, vous le connaissez par cœur.
Oui, bien sûr.
C'est absolument magnifique.
Et j'espère qu'un jour on pourra publier cet enregistrement, parce que c'est vraiment la dernière chose qu'on ait fait ensemble.
Ben j'espère aussi, ce sera un joli cadeau. Le funambule de Jean Genet, artiste dont l'existence marginale cultivée, introduit de façon intéressante l'idée qui vous réconforte, Étienne Dao. On devient ce que l'on veut devenir. Il y a une citation qui est un peu comme ça d'ailleurs dans le funambule, c'est pourtant cela qu'il cherche, ressembler plus tard à cette image de lui qu'il s'invente aujourd'hui.
Exactement, c'est ça.
Et c'est votre cas, vous êtes devenu ce que vous vouliez devenir ?
Oui, ah oui.
Que vouliez-vous
être ? C'était une projection, j'avais envie d'avoir une belle vie. Et j'avais envie d'avoir une belle vie avec la musique, avec ma passion. Et je me suis projeté comme ça et je pense que j'ai traversé tous les obstacles parce que j'avais cette chose tellement puissante en moi que je n'ai pas vu du tout les obstacles, les critiques, les difficultés... Surtout quand on est un jeune provincial et qu'on connaît pas, on connaît personne. Enfin, voilà, on se lance comme ça et puis on espère qu'un jour quelqu'un attrapera au vol ce qu'on a lancé. Oui. Sans envie particulièrement, sans ambition professionnelle démesurée, mais juste faire quelque chose de beau, quoi. Voilà.
Mais il semble que vous ayez une capacité d'émerveillement assez développée.
peut-être.
C'est une force, ça, pour ne pas sombrer.
Oui, ça permet de traverser pas mal de choses, effectivement.
Et si l'on devient ce que l'on veut être, comment expliquer que l'on puisse être mécontent de ce que l'on est ?
Parce qu'on a envie de se perfectionner, d'être encore meilleur. On n'est jamais arrivé au bout de ce qu'on voulait être. On s'imagine certainement toujours beaucoup mieux que ce que l'on est. Ce qui fait que ça provoque du trac, des interrogations... Parce que voilà, c'est l'envie de très bien faire.
Et ceux qui pensent être une épave aujourd'hui, vous pensez qu'inconsciemment on peut vouloir sa destruction, on peut vouloir être un perdant ?
Oui.
Et ça marche.
Bon après, il y a 10 000 façons d'être un perdant. C'est vrai que perdre, il y a un côté extrêmement romantique, extrêmement beau là-dedans. On peut perdre avec panache. Hein. Pour qui a lu William Burroughs, par exemple, voilà, c'était une manière de se retrouver dans la rue avec une aiguille dans le bras et c'était sublime. C'est ce qu'a fait Marianne Faithfull. Et la lecture de William Burroughs pour des gens comme elle ou pour moi, à un moment donné, ça a fonctionné. Il y avait quelque chose de beau là-dedans. Il n'y avait pas du tout la sensation de la destruction, mais d'aller au bout de quelque chose par envie de pureté aussi.
L'absolu, la recherche de l'absolu.
L'absolu.
Et c'est pas une tentation que vous avez, vous, la recherche de l'absolu, parce qu'on se brûle toujours un peu les ailes, finalement, dans cette quête.
Oui, mais on peut être tiraillé entre les deux extrêmes.
Et vous y arrivez.
Ben, j'essaie d'y parvenir.
Dans un instant, on parlera peinture et interruption, le temps d'écouter un titre de 1968 interprété par l'une de vos héroïnes. Vous avez chanté avec elle, vous avez même écrit sa biographie avec Jérôme Soligny. Françoise Hardy, comment te dire adieu ?
Prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de profil, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurais mieux comment te
je dire adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi ce Rex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Étienne Dao en direct imaginaire de Londres.
I lived with a couple of the Pink Floyd in a flat in Cromwell Road, now being demolished in its hotel instead.
So that was
but it was a building that had two flats where there were groups of like-minded people.
Including the Pink Floyd.
Including some of the Pink Floyd. Not all of them, just two of them. But they used to rehearse in the flat on the top floor. We had a two-story flat. That was probably 66, 67.
No!
Yes.
L'artiste anglais Dougie Fields, en octobre 2011, racontant qu'il vivait dans le même appartement que deux des Pink Floyd dans les années 60. Étienne Daou, vous avez choisi son œuvre. Vous avez indiqué le nom à côté de Syd Barrett, dont vous avez, paraît-il, une immense photo en noir et blanc dans votre appartement parisien. Et je vous laisse nous raconter les anecdotes qui lient ces deux personnages et qui vous lient à Dougie Fields, parce que c'est assez drôle.
D'abord, je voulais choisir un peintre vivant. Autrement, j'aurais choisi Bacon, bien sûr. J'ai rencontré Dougie complètement par hasard. En fait, on m'a offert une biographie sur Syd Barrett. Syd Barrett, pour moi, c'est Dieu, en fait, en gros.
Le premier album que vous avez acheté, d'ailleurs, c'était le premier disque des Pink Floyd.
Oui, voilà, c'est ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup influencé. Ça m'a beaucoup intimidé quand j'ai commencé à faire de la musique. Parce qu'évidemment, chaque inspiration, c'était forcément le premier Floyd ou les deux albums solo de Barrett. Donc c'était vraiment très, très, très puissant. J'ai tout fait pour m'extraire de ça et pour ne faire que de la chanson française ou de la pop. Je me suis un peu plus laissé aller sur ce dernier album. Je me suis retrouvé au centre d'un vortex, encerclé par Barrett, en fait. Parce que je me suis rendu compte dans cette biographie que l'appartement dans lequel il habitait, et qu'on voit sur la pochette de son premier album solo, où il est accroupi sur un espèce de plancher qu'il a peint lui-même en orange et bleu. C'était vraiment à 2 cm de l'appartement que je loue à Londres quand je travaille, quand j'enregistre. Et donc je suis passé devant cet appartement. J'ai une fascination pour les lieux, en fait, vraiment, vraiment. Plus que pour les personnes, en fait.
Comme l'ancien atelier de Bacon, d'ailleurs.
L'atelier de Bacon, la Villa Manapart. Voilà, ce sont des lieux, je peux rester fasciné devant une maison pendant des heures, parce que j'ai l'impression d'être en communion avec l'endroit. Voilà, ça fait partie de mes bizarreries. Et j'ai rencontré Dougie quelques jours après, qui était à la terrasse d'un café juste à côté de chez moi. Évidemment, je l'ai reconnu, il est très excentrique, avec ses vêtements, ses badges, ses lunettes. Et donc... on a fait connaissance, on est devenus très amis et il m'a invité dans cet appartement qui était pour moi... j'aurais jamais pu imaginer qu'un jour je puisse me retrouver dans la chambre de Barrett, dans la chambre où il a été si malheureux, où il a écrit en même temps de si belles chansons, parce que son histoire, c'est quand même incroyable. En fait, il invente le psychédélisme, il est le guitariste, chanteur, compositeur... le plus incroyable et flamboyant de sa génération.
Il a une carrière
ans,
très courte.
Il y a 24 ans, tout est fini. Et donc, c'est un peu un mystère à la Monroe, quoi. Qui est Syd Barrett? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dougie Fields m'a laissé quelques minutes, enfin une demi-heure, on va dire, dans la chambre de Barrett. Et vraiment, des forces se sont mises en marche. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je suis ressorti vraiment avec 3 chansons dans la tête que j'ai écrites pour le prochain album. Et puis aussi... il est devenu la muse, le personnage central de ce disque. Et pendant toute la période de l'écriture de ce disque, tout s'est mis en place pour qu'il soit extrêmement présent. Chaque fois, ça réapparaissait. Enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'autrement, il faudrait faire une émission là-dessus. Mais c'est étrange comment, lorsqu'on se mobilise pour écrire, pour fabriquer quelque chose, si on est attentif aux signes, et parfois même pas du tout, parce que c'est l'extérieur qui se charge de se rappeler à vous. Et voilà, enfin, voilà, c'est mystique presque.
Bah oui, vous êtes protégé par le fantôme de Syd Barrett.
Oui, mais j'ai convoqué pas mal de fantômes sur les derniers albums. On vit avec ceux qui ne sont plus là.
Bien sûr.
Ils sont là.
Parfois même plus avec eux qu'avec ceux qui sont là. Et pour parler de ceux qui sont là, alors moi je dis Dougie Fields, je le prononce mal, c'est Dougie.
Dougie.
Dougie Fields, alors qui est-il? Comment décrire son œuvre? Vous avez eu la gentillesse d'apporter un numéro du magazine The Drawer, oui, où il y a certaines de ses œuvres. Comment les décrire?
C'est à la fois très joyeux et coloré. Souvent, il peint des icônes du siècle. Ça va de Lady Di à Barrett, justement.
C'est post-pop?
Oui. C'est un post-moderniste, on va dire. Tous ces dessins sont liés par une ligne géométrique. Souvent, les membres ou la tête est coupée, ce qui donne un côté à la fois morbide et très joyeux. Et ce qui fait que ça, tout d'un coup, c'est, regarder ce tableau, c'est une expérience des contraires. Et puis en plus, je lui ai demandé d'être dans mon disque, c'est lui qui ouvre le disque. Dans mon disque, il est Dieu, en fait. Et il fait de la musique.
Et vous êtes dans certains de ses clips.
Oui, boum, il fait boum. De la musique et je l'ai connecté, je l'ai présenté à Bertrand Burgala, qui va certainement publier un disque de ses chansons. Et voilà, je suis très très content parce que ça mérite d'être vraiment écouté, il mérite d'être vu. Voilà.
Et d'ailleurs, vous nous avez apporté un morceau,
oui,
de Dougie Fields qu'on écoute tout de suite. Je pense qu'on peut ressentir plein d'émotions sur cet air, mais pas la tristesse.
Oui, souvent ce sont des textes philosophiques comme ça, sur une espèce de techno bricolé, qui est illustré par des clips qu'il fait aussi. Tout ça est DIY, c'est intéressant, quoi. Il passe son temps à filmer la vie, le monde. C'est vraiment un témoin de son époque. Souvent aussi, c'est très égocentrique parce qu'il se met... Il se met en scène en permanence.
Mais c'est ce qui le rend truculent.
Oui, il est le personnage central, en fait, de son œuvre.
Dougie Fields, donc, ouais, à découvrir absolument si l'on ne le connaît pas déjà. Et écoutez Boom Boom, parce que moi, j'ai Boom Boom dans la tête depuis 3 jours. Voilà, je ne sais pas comment ma vie va se terminer, mais écoutez Boom Boom.
Toute civilisation est chose mortelle. Le nombre de celles qui se sont développées sur le globe ne nous est pas connu, puisqu'il en est, dont on découvre à peine aujourd'hui, la vestige. Ces fossiles démontrent la fragilité des existences des sociétés organisées. Nous pouvons donc comparer les civilisations et des êtres qui naissent et meurent, qui sont assujettis à des conditions dont l'altération et la suppression furent jusqu'ici fatales. Nous pouvons aussi parler, en quelque mesure, de crise, de troubles, de maladies d'une civilisation. À la condition toutefois de ne pas abuser de ce qui n'est qu'une image, une manière de s'exprimer.
La voix de Paul Valéry, l'auteur de votre citation « Pansement, Étienne Dao », elle est extraite du recueil « Mauvaises pensées et autres » paru en 1942, et c'est « Tout commence par une interruption ». Comment vous
l'entendez ? Je ne connais pas Paul Valéry, ou très mal, j'avais lu un peu de sa correspondance avec Gide, mais j'en sais pas plus.
C'est déjà pas mal.
C'est une amie qui m'a envoyé cette phrase en me disant bon, Paul Valéry est un auteur pas très sexy, mais enfin je t'envoie cette phrase que vraiment ça va te parler. Et effectivement, c'est ça, ma vie est ça. Ma vie n'est qu'une succession de chapitres et d'interruptions. Et d'ailleurs, je l'ai écrit sur un bout de papier, je l'ai collé sur un mur chez moi, et c'est vraiment une phrase qui me parle. Voilà.
Qu'est-ce que c'est une interruption? C'est la mort d'une chose?
L'interruption, c'est un départ.
Ça peut être une façon très optimiste de considérer le deuil d'une relation ou le deuil d'une situation, puisque en fait, quand quelque chose meurt...
Bien sûr. Quelque chose, ça laisse, ça fait un espace pour quelque chose qui se reproduit, qui se refabrique. Et cette phrase-là, ça me parle, parce que ma vie, c'est ça, tout le temps, tout le temps. Et j'aime bien l'idée de recommencer chaque jour ou quelque chose. Chaque album, c'est aussi un nouveau chapitre. C'est comme une... Et chaque fin d'album, c'est un chapitre qui se clôture. J'aime bien cette sensation. Ça permet de toujours être en éveil sur tout ce qui m'entoure. Voilà.
Vous n'aimez pas le confort?
J'aime un certain confort,
oui.
Bien sûr, mais je ne recherche pas. Par exemple, quand je pars pendant 2 ans pour écrire un disque dans une garçonnière microscopique, dans un endroit où je ne connais pas grand monde, et ce n'est pas très confortable. Enfin, je veux dire, ce serait beaucoup plus confortable d'être à Paris, parce que voilà, j'ai ma maison, mes amis, la personne que j'aime. Enfin. Mais c'est un inconfort de s'en aller. Mais ça permet d'aller au bout de ce que j'ai commencé, et puis ça me permet d'être vraiment complètement concentré, d'être complètement dévoué à ce que je suis en train de faire.
Tout commence par une interruption, Paul Valéry.
C'est pas mal, non?
Ouais, c'est très joli. Espérons que l'interruption de notre entretien cède le pas au début d'une jolie chose pour chacun de nous. Merci beaucoup, Étienne Daho, d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.